Chapitre 30. Les mains appuyées sur les cuisses, Richard s'accroupit dans le ventre de la bête.
Alors?
Demanda Nietzsche, toujours perché sur sa jument. Richard se releva près d'une côte dénudée de sa chair qui faisait deux fois sa taille. Mettant une main en visière, il sonda brièvement l'horizon, puis se tourna vers la sœur de l'obscurité dont les cheveux blonds scintillaient au soleil.
Je crois que c'est la carcasse d'un dragon.
Sa jument tentant de s'écarter du cadavre géant, Nietzsche dut tirer fermement sur les rênes.
« Un dragon !»
répéta-t-elle impassible. Des lambeaux de chair adhéraient encore aux ossements déjà blanchis par endroits. D'un revers de la main, Richard chassa les mouches qui bourdonnaient autour de lui en quête d'un festin. L'odeur de décomposition lui donnant la nausée, il sortit de la carcasse et désigna la tête qui gisait sur un lit d'herbe jaunâtre.
« Je reconnais les crocs, » dit-il. « Naguère, j'avais une dent de dragon. »« Eh bien, que tu aies raison ou pas, » dit Nietzsche, toujours sceptique, « filons d'ici si tu estimes en avoir vu assez. »
Richard s'essuya les mains dans l'herbe, puis approcha de son étalon, qui hennit nerveusement et recula. Il détestait l'odeur de la mort et ne se calma pas vraiment quand Richard lui flatta l'encolure.
« Pas de panique, garçon, c'est fini, » souffla son cavalier.
Dès que Richard fut en selle, Nietzsche fit volter sa jument et se remit en route alors que le soleil de la fin d'après-midi faisait luire sinistrement le gigantesque squelette. Richard jeta un dernier coup d'œil à la dépouille et talonna sa monture. Heureux de s'en éloigner, l'étalon se lança au galop sans rechigner. Depuis un mois, à quelques jours près, l'animal et son cavalier s'étaient habitués l'un à l'autre. L'étalon faisait preuve de bonne volonté, mais sans se montrer amical. Richard se contentait de cette relation car il avait d'autres soucis en tête qu'améliorer ses rapports avec un cheval. Nietzsche, ignorant si la bête avait un nom, elle ne semblait pas juger utile qu'on bâtisse sa monture, Richard avait opté pour « garçon ». Du coup, la sœur de l'obscurité s'adressait à sa jument en l'appelant « fille ». Que son prisonnier ait ainsi humanisé les talons la laissait indifférente, mais faire de même avait dû lui paraître plus simple.
« Tu crois vraiment que c'était les restes d'un dragon ?»
demanda-t-elle à Richard quand il l'eut rattrapé. L'étalon ralentit et flanqua un gentil petit coup de tête à la jument qui ne daigna même pas tourner le bout d'une oreille vers lui.
« La taille correspond si mes souvenirs sont exacts. Tu n'es pas sérieux, n'est-ce pas ? T'as vu le squelette, non ? Oui, mais je pensais qu'il s'agissait des restes d'un antique monstre appartenant à une espèce depuis longtemps disparue. Avec des essaims de mouches autour ? J'ai vu des vestiges de tendons accrochés aux os. Cette créature est morte il y a 6 mois, et peut-être moins que ça. Donc, il y a vraiment des dragons dans le Nouveau Monde ? Dans les contrées du milieu, oui. Pas là où j'ai grandi. Ces bêtes ont un certain pouvoir magique et le don n'existe pas en Terre d'Ouest. Il n'y a pas si longtemps, j'ai rencontré un dragon rouge. D'après ce qu'on dit, ils sont très rares.
Et désormais, il y en aurait un de moins. Nietzsche semblait se ficher comme d'une guigne du cadavre géant, fût-il celui d'un reptile volant. Après quelques jours de voyage, Richard s'était rendu à l'évidence. Faute de pouvoir tuer la sœur de l'obscurité, il aurait une meilleure chance de lui échapper s'il parvenait à l'amadouer. De plus, se livrer à un bras de fer permanent l'aurait empêché de penser à un moyen de résoudre son problème. Dans ces situations de ce genre, il fallait se concentrer sur l'essentiel. Bien entendu, manifester de l'affection à Nietzsche était au-dessus de ses forces, mais il parvenait à ne pas la provoquer, évitant ainsi qu'elle ait envie de se venger sur Callan. Jusque-là, cette tactique avait fonctionné. D'autant plus que la sœur de l'obscurité ne semblait pas encline à lâcher la bonde à sa colère. Quand quelque chose n'allait pas, elle se murait dans une indifférence si profonde qu'elle en devenait rassurante.
« Grandir dans un pays où la magie n'existe pas doit être étrange. »
dit Nietzsche quand ils furent enfin de retour sur la piste qu'ils avaient quittée pour aller voir le squelette de plus près.
« Pas pour moi, »
répondit Richard.
« À mes yeux, c'est normal. »« Et tu étais heureux sans le don ?»« Tout à fait, oui. »« Mais pourquoi cette question ?»« Parce qu'aujourd'hui, tu luttes pour sauver la magie afin que d'autres enfants soient obligés de grandir avec elle. »« Ai-je tort ?»«
Non. » »«
L'ordre veut en finir avec le surnaturel. » Pour que les gens soient heureux. Il aimerait que tous les gamins aient ta chance et pourtant tu le combats.
Richard estima que la conversation avait assez duré.
La philosophie de l'ordre ne l'intéressait pas et il avait d'autres soucis en tête. Ils avançaient vers le sud-est sur une piste empruntée par quelques colporteurs. Le jour même, ils en avaient croisé deux, les saluant amicalement sans s'arrêter. Depuis le début de l'après-midi, la piste s'orientait plus nettement vers le sud. Alors qu'ils atteignaient le sommet d'une crête, Richard aperçut un troupeau de moutons dans le lointain. Selon un voyageur, ils approchaient d'un village où ils pourraient se réapprovisionner. Sur la gauche, au nord-est, de grands pics enneigés brillaient encore au soleil. Sur la droite, une pente douce menait au pays sauvage. Le village dépassé, ils ne tarderaient pas à traverser le fleuve Kern. De là, ils atteindraient assez vite la vallée des âmes perdues. Ensuite, ils s'enfonceraient dans l'ancien monde. Même s'il n'existait plus de barrière pour l'empêcher de retourner chez lui, comme à l'époque où Vernal avait conduit à Tanimura, Richard avait le cœur brisé de quitter le nouveau monde. Kalan y vivait et ce serait une façon de s'éloigner encore plus d'elle. Si fort qu'il l'aima, il avait conscience de la perdre un peu plus chaque jour.
« On raconte qu'il y avait aussi des dragons dans l'ancien monde, » dit soudain Nietzsche.
Richard s'arracha à sa sombre méditation. « Par le passé, tu veux dire? Quand ça ?»«
Il y a très longtemps. Personne de vivant n'en a jamais vu, y compris les sœurs qui résidaient au palais. »«
Et tu sais pourquoi il en est ainsi ?» demanda Richard.
« Je peux te répéter ce qu'on m'a enseigné, si ça t'intéresse. »
Le sourcier hocha la tête.
« Pendant le terrible conflit, à l'époque où fut érigée la barrière qui séparait les deux mondes, les sorciers de l'ancien envisageaient déjà d'en finir avec la magie. Les dragons ne pouvant exister sans elle, ils ont disparu. »«
Pourtant, il y en a toujours ici. » »«
De l'autre côté de la vallée des âmes perdues, les sorciers dont je parle n'ont pas réussi leur coup puisque la magie existe encore. »
Très mal à l'aise, Richard repensa au squelette. Était-il possible que...
« Nietzsche, puis-je te poser une question sérieuse au sujet de la magie ?»
La sœur de l'obscurité jeta un regard méfiant à son prisonnier.
« Que veux-tu savoir ? Selon toi, combien de temps un dragon peut-il survivre sans le soutien du pouvoir ?»
Nietzsche réfléchit un court instant.
« Je sais simplement ce qu'on raconte chez moi, et les récits qui datent de si longtemps ne sont pas fiables, comme tu le sais. Tu veux connaître mon estimation ?» « Eh bien, je crois que ce serait l'affaire de quelques jours, ou peut-être un peu plus, mais pas beaucoup. En fait, ça revient à se demander quel est l'espoir de survie d'un poisson hors de l'eau. Mais en quoi ça t'intéresse ?»«
Quand les carillons arpentaient le monde, ils ont absorbé de la magie. Pendant un temps, presque tout le pouvoir a abandonné l'univers des vivants. »«
Permets-moi de te corriger. Selon moi, toute la magie a provisoirement déserté notre monde. »
Exactement ce que Richard redoutait. Mais toutes les créatures magiques ne dépendent pas du don. Toi et moi, par exemple, nous sommes des êtres magiques en un sens, mais nous sommes capables de vivre sans le pouvoir. Je me demandais si d'autres créatures comme nous ont pu survivre pendant que les carillons étaient là et attendre le retour de la magie.
La magie n'est pas revenue, Richard.
Quoi ? S'écria le sourcier en tirant sur les rênes de son étalon pour qu'il s'immobilise.
« Pas comme tu l'imagines, en tout cas. »
Nietzsche avança un peu, puis fit volter sa jument pour regarder son prisonnier en face.
« Richard, je n'en sais pas plus que toi sur ce qui est arrivé, mais un événement pareil a automatiquement des conséquences. Dis-moi ce que tu sais. Pourquoi as-tu l'air si inquiet ? Nietzsche, je t'en prie, partage simplement tes connaissances avec moi. La magie est un domaine très complexe où les certitudes sont rares. « Attends, ne m'accable pas de questions. Nous savons au moins une chose. Le monde change à chaque minute depuis l'aube des temps. Mais la magie n'en fait pas vraiment partie, comprends-tu? C'est plutôt un conduit qui relie les univers. Tu me suis ?»«
Je crois, oui. » »«
Accidentellement, j'ai ramené le spectre de mon père du royaume des morts. Et j'ai aussi recouru à la magie pour l'y renvoyer. Le peuple d'Adobe, par exemple. » communique avec les esprits de ses ancêtres à travers le voile qui nous sépare des territoires du gardien. Quand une des sœurs au service de Jagang a déclenché la peste avec un sort qu'elle était allée chercher dans le royaume des morts, j'ai dû m'introduire dans le temple des vents pour empêcher une catastrophe. Tu vois le point commun qui relie tous ces exemples ?
La magie permet d'aller d'un monde à l'autre.
Oui, mais ce n'est pas tout. Un autre monde existe, d'accord, mais sa nature même dépend de ce qui se passe dans le nôtre.
Je vois ce que tu veux dire. La vie naît chez nous et, après la mort, le gardien s'empare des âmes.
C'est ça, mais pas seulement. Tu ne vois pas la connexion.
Richard sentit qu'il perdait pied. Jusqu'à ces derniers temps, la magie, en réalité sa simple existence, était une inconnue pour lui.
« Nous sommes coincés entre les deux royaumes ?» hasarda-t-il.
« Non, pas exactement. »
Nietzsche attendit que Richard la regarde dans les yeux, puis elle leva une main pour souligner l'importance de ce qu'elle allait dire.
« La magie est une passerelle entre les mondes. Quand elle faiblit, le royaume des morts, par exemple, est plus éloigné de nous. En conséquence, son pouvoir sur l'univers où nous vivons diminue. Tu comprends ?»
Richard eut soudain la chair de poule. Tu veux dire que les autres mondes ont moins d'influence sur le nôtre?
Comme lorsqu'un enfant grandit et se détache de ses parents?
C'est ça.
Quand les mondes s'éloignent les uns des autres, la situation est comparable à celle d'un enfant qui quitte la maison familiale. Mais il y a encore plus que cela.
Nietzsche se pencha en avant sur sa selle.
Les autres mondes existent uniquement parce qu'ils ont un lien avec la vie.
À cet instant, et pour la première fois depuis qu'il la connaissait, Richard vit la sœur de l'obscurité sous son vrai jour, une très vieille et très sage magicienne de près de 2 siècles.
On peut même dire que les autres univers, sans la magie qui les lie au nôtre, cesseraient d'exister.
Pour reprendre notre image, ça signifie que les parents, quand un enfant les a quittés, perdent de l'importance à ses yeux. Lorsqu'il meurt de vieillesse, il peut continuer à vivre sans eux, si fort qu'ait été le lien qui les unissait.
Tu as tout compris.
Le monde change sans cesse, murmura Richard, presque pour lui-même. Jagang veut détruire la magie et les autres univers pour que le royaume des vivants n'appartienne qu'à lui.
Non, à l'humanité,
corrigea Nietzsche.
Pour lui-même, il ne désire rien.
Richard voulut émettre des objections, mais la sœur de l'obscurité lui fit signe de se taire.
Je connais l'empereur, et quand j'évoque ses convictions, je sais de quoi je parle. Il ne crache pas sur le butin, je te le concède, mais au fond de son âme, il est convaincu de lutter pour l'espèce humaine, pas pour défendre ses propres intérêts.
Richard n'en crut pas un mot. Mais pourquoi aurait-il polémiqué avec Nietzsche?
Quoi qu'il en soit, à cause des changements en cours, des créatures comme les dragons avaient peut-être déjà disparu de la surface du monde.
Le squelette qu'il avait vu était-il tout ce qui restait du dernier dragon rouge?
À cause des carillons,
dit Nietzsche.
Des modifications irréversibles se sont produites, et il se peut que les créatures magiques soient déjà mortes. Au fil du temps, toute la magie, y compris la nôtre, finira par disparaître. Tu saisis? Sans la passerelle dont je parlais, plus personne ne naîtra avec le don, et la race maudite des sorciers s'éteindra.
Richard n'aurait pas juré que Nietzsche avait raison. Mais il avait une certitude. Dès que l'occasion se présenterait, il tuerait cette femme. Alors qu'il s'éloignait, il tourna la tête pour jeter un dernier coup d'œil au squelette géant. Bien entendu, il était depuis longtemps hors de vue. La nuit était tombée quand ils atteignirent le village. Interrogeant un passant, Richard apprit que l'endroit s'appelait Contrefort, simplement parce qu'il n'était pas loin du pied d'une chaîne de montagnes. Le bourg, très paisible, se situait aux confins des contrées du milieu, juste avant ce qu'on nommait jadis la vallée des âmes perdues. Ses habitants, des cultivateurs et des éleveurs, faisaient du troc avec les colporteurs téméraires qui s'aventuraient encore jusque-là, mais le flot se tarissait inexorablement. Une route reliait Contrefort à Reinwald, au sud-ouest, et d'autres pistes partaient vers le nord. Avant la disparition de Reinwald, rasée par l'ordre impérial, la petite cité était un carrefour commercial important, car les peuples du pays sauvage qui vivaient de la vente de leurs produits artisanaux y faisaient immanquablement halte. Aujourd'hui, Contrefort semblait ne plus être habité que par des fantômes. Des temps difficiles commençaient pour cette région des contrées, et les choses n'étaient pas près de s'arranger. L'arrivée de Richard et de Nietzsche fit sensation. les étrangers ces derniers temps devenaient plus rares que la canicule en hiver. Les deux voyageurs étaient épuisés. Descendre à l'auberge locale semblait tentant, mais des beuglements d'ivrogne montaient de l'établissement et le sourcier ne se sentait pas d'humeur à gérer une rixe. Pour les chevaux, ils dénichèrent une écurie très bien tenue dont le propriétaire, contre une somme modique, leur proposa de passer la nuit dans son grenier à foin. Avec le temps glacial, Richard accepta l'offre et ne rechigna pas quand il lui fallut payer d'avance. Ravi de ce bénéfice inattendu, l'homme proposa de cirer gratuitement les bottes de ses clients.
« C'est gentil, » répondit Richard, « mais nous sommes morts de fatigue. »«
Dans ce cas, je vais m'occuper de vos montures. Bonne nuit à votre épouse et à vous, mon brave. »
Précédé par Nietzsche, le sourcier gravit les barreaux de l'échelle qui menait au grenier. Après un rapide repas pris en silence, ils s'enroulèrent dans leur couverture et s'endormirent comme des masses. Quand ils se réveillèrent, un peu après l'aube, ils découvrirent qu'une petite bande d'enfants maigrichons et d'adultes aux joues creuses était venue voir les riches voyageurs arrivés la veille. Apparemment, l'excellente qualité de leurs chevaux avait donné naissance à un flot de rumeurs et de spéculations. Lorsqu'il salua les villageois, Richard n'obtint que des regards vides en guise de réponse. Cependant, quand Nietzsche et lui se dirigèrent vers l'épicerie, située quelques bâtiments miteux plus loin, tout le monde les suivit comme s'ils étaient un couple royal en visite. Effrayés par cette procession, les volailles et les chèvres qui erraient dans les rues s'éparpillèrent sans dissimuler leur indignation. Perché sur une souche, un coq manifesta la sienne en battant furieusement des ailes. Plus conciliante, une vache laitière qui broutait dans un enclos près de la boutique du cordonnier leva à peine la tête pour voir ce qui se passait. Quand les enfants, plus téméraires que les adultes, demandèrent qui ils étaient, Nietzsche répondit qu'il voyageait et cherchait du travail. Un jeune couple comme tant d'autres, poussé à l'errance par de tragiques événements. Au vu de sa superbe robe noire, personne ne goba son histoire. Et même s'il était moins bien vêtu, Richard non plus n'avait pas l'allure d'un miséreux. Après avoir précisé qu'il ne trouverait pas d'ouvrage à contrefort, un adolescent s'enquit de leur destination. Quand Nietzsche révéla qu'ils étaient en route pour l'ancien monde, plusieurs adultes prirent leurs enfants par les bras et détalèrent sans demander leur reste. D'autres continuèrent à coller au basque des deux souverains. Le propriétaire de l'épicerie, un homme assez âgé, chassa gentiment la foule du pas de sa porte dès que Richard fut entré dans la boutique. Mais les villageois revinrent très vite à la charge, entourant Nietzsche pour quémander de l'argent, de la nourriture et des médicaments. La sœur de l'obscurité resta devant le magasin et demanda aux villageois de lui parler de leur malheur. Puis, elle se déplaça parmi eux pour examiner les enfants. La surveillant du coin de l'œil, Richard constata qu'elle affichait l'expression vacante qu'il n'aimait pas du tout.
« Que puis-je pour vous ?» demanda l'épicier.
« D'abord, parlez-moi des gens qui sont massés dehors. »
À travers la petite fenêtre, le sourcier vit que Nietzsche, debout au milieu d'un cercle de déshérités, tenait un grand discours que son public buvait comme du petit lait. Sans doute parlait-elle du Créateur et de l'amour qu'il portait au plus humble de ses enfants.
« Ces gens ?»
répéta l'épicier.
« Quelques-uns viennent de l'Ancien Monde, un exil volontaire après la disparition de la barrière. La plupart sont d'ici, mais ce n'est pas la fine fleur de notre population, croyez-moi. Un tas d'ivrognes et de bons à rien tout juste capables de mendier. C'est devenu à la mode depuis que des transfuges de l'Ancien Monde vivent ici. » Souvent, les colporteurs leur font l'aumône parce qu'ils craignent d'être détroussés s'ils ne se montrent pas généreux. Dehors, il y a quelques personnes vraiment dans le malheur. Par exemple, des veuves qui ne parviennent plus à nourrir décemment leurs enfants. Quelques-uns de ces traits de misère acceptent de travailler pour moi quand j'ai besoin de bras, mais la majorité refuse de s'abaisser à ça.
Richard allait réciter au vieil homme la liste des provisions dont il avait besoin, mais l'irruption de Nietzsche dans la boutique l'en empêcha.
« Richard, j'ai besoin d'argent. »
N'ayant aucune envie de discutailler, le sourcier tendit à la sœur de l'obscurité la sacoche de sel où il gardait ses pièces d'or et d'argent. Nietzsche en prit une poignée. Quand il eut calculé la somme que ça représentait, l'épicier ouvrit des yeux ronds. Sans lui accorder un regard, Nietzsche ressortit et entreprit de distribuer cette petite fortune aux pauvres de contrefort.
Des cris retentirent.
les gens se bousculèrent et ceux qui avaient reçu quelque chose, très prudents, s'empressèrent de détaler.
Richard rouvrit la sacoche, jeta un coup d'œil à l'intérieur et constata qu'il ne lui restait presque plus un sou.
Ce que faisait Nietzsche n'avait aucun sens. Pourquoi se comportait-elle ainsi?
En soupirant, il se tourna vers l'épicier.
« Il me faudrait de la farine, des flocons d'avoine, du riz, du bacon, des lentilles, des biscuits secs et du sel. C'est possible ?»«
Oui, sauf pour les flocons d'avoine. Combien de chaque produit ?»
Richard se livra à un rapide calcul mental. Leur voyage n'était pas terminé, loin de là, et Nietzsche, avec ses largesses, venait quasiment de les ruiner. Comment tiendraient-ils alors qu'ils avaient presque épuisé leurs réserves de vivres ?
« Ce que vous pourrez me vendre contre 6 sous d'argent, »
répondit le sourcier en posant les pièces sur la table. Il retira son sac à dos et le plaça aussi sur le comptoir. L'épicier soupira d'aise en songeant à son chiffre d'affaires de la journée. Soudain guilleré, il collecta des petits sacs sur ses étagères puis les rangea dans le sac à dos. Se souvenant d'autres produits dont il avait besoin, Richard mit sur le comptoir un autre sou d'argent et compléta sa commande auprès du commerçant. Il ne lui restait plus que quelques sous d'argent, 2 couronnes du même métal et plus l'ombre d'une pièce d'or. Nietzsche distribuait à ses gens plus d'argent qu'ils en avaient vu de leur vie. Inquiet pour la suite du voyage, Richard reprit son sac que l'épicier avait fini de remplir et sortit en trombe pour voir s'il pouvait empêcher la sœur de l'obscurité de dilapider son pécule. Hélas, elle venait de donner la dernière pièce à un ivrogne barbu et édenté. Se fichant comme d'une guigne du discours sur le créateur que lui tenait sa bienfaitrice, le type se léchait déjà les lèvres à l'idée du vin qu'il allait pouvoir ingurgiter. Richard prit Nietzsche par le bras et l'attira vers lui.
« Je veux aller à l'écurie, » dit-elle.
« Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Plus vite nous aurons filé d'ici, mieux... »«
Non !»
coupa la sœur de l'obscurité.
« Nous devons vendre les chevaux, Richard. »«
Pardon ? Puis-je au moins savoir pourquoi ?»
Pour partager ce que nous avons avec ceux qui ne possèdent rien.
Richard n'en crut pas ses oreilles.
Comment voyagerait-il ensuite?
Après une courte réflexion, il décida qu'il s'en fichait. Au fond, arriver à destination ne l'intéressait pas. Bien entendu, il serait chargé comme des baudets, mais un ancien guide forestier ne se laissait pas arrêter par des détails de ce genre.
Nous voulons vendre nos montures, annonça-t-il au propriétaire de l'écurie dès qu'ils y furent entrés. L'homme ne cacha pas sa surprise.
« Ce sont de très beaux chevaux, messire. Par ici, on n'en voit pas beaucoup de cette qualité. »«
Eh bien, » dit Nietzsche, « ça changera à partir d'aujourd'hui. »
De plus en plus mal à l'aise, le type regarda la sœur de l'obscurité. Comme beaucoup de gens, poser les yeux sur elle le perturbait. À cause de son incroyable beauté ou de sa froideur tout aussi peu fréquente.
« Je ne pourrais pas vous les payer très cher, hélas !»«
Qui a parlé de prix ?»
répondit Nietzsche.
« Nous voulons les vendre et nous prendrons ce que vous proposerez. »
L'homme regarda Richard, puis baissa les yeux. À l'évidence, escroquer 2 voyageurs ne l'enthousiasmait pas, mais comment refuser une occasion pareille ?«
4 pièces d'argent par tête, voilà mon prix. »
Au minimum, les talons et la jument valaient 10 fois plus.
« Et la céleri ?»
demanda Nietzsche.
« 1 pièce de plus, c'est tout ce que je peux faire. Désolé, mais je n'ai pas plus d'argent et... »«
Quelqu'un d'autre pourrait nous acheter ces chevaux ?»
coupa Richard.
« J'en doute, mon garçon, mais si vous trouvez un autre client, je n'en ferai pas une maladie. Je n'aime pas arnaquer les gens, et 5 pièces par tête, céleri comprise, c'est du vol caractérisé. »
Conscient que cette étrange transaction échappait au contrôle de Richard, l'homme regarda de nouveau Nietzsche.
« Marché conclu, »
dit-elle sans l'ombre d'une hésitation.
« C'est un prix honnête. »«
Si vous le pensez. »« Navré, mais je n'ai pas l'argent sur moi. Si vous voulez bien attendre un peu, je vais aller le chercher. »
Nietzsche acquiesçant, l'homme s'éloigna à grandes enjambées. Moins pressé de conclure l'affaire, devina Richard, que de voir enfin partir sa terrifiante cliente.
« Tu peux m'expliquer ce qui se passe, Nietzsche ?»
Devant l'écurie, la foule qui les suivait depuis leur réveil semblait monter la garde, peu disposée à les laisser filer.
« Prends toutes les affaires que tu pourras porter, »
dit la sœur de l'obscurité, ignorant la question de son prisonnier.
« Dès que cet homme sera revenu, nous nous mettrons en route. »
Richard foudroya Nietzsche du regard, puis il approcha de la stalle de garçon, repéra sa selle posée juste devant, et entreprit de fourrer dans son sac les objets dont il ne voulait pas se séparer. Il accrocha aussi les outres à sa ceinture, puis jeta les sacoches de selle sur son épaule. À n'en pas douter, le propriétaire de l'écurie n'oserait pas se plaindre qu'elle ne soit pas comprise dans la sellerie, et s'il passait plus tard dans une ville un peu plus prospère, les vendre leur apporterait peut-être de quoi se nourrir. Près de la stalle de fille, Nietzsche faisait également ses bagages. Dès qu'il fut de retour, l'homme approcha de Richard et lui tendit l'argent.
« Non, il est pour moi !»
lança Nietzsche. Le propriétaire de l'écurie consulta Richard du regard, soupira et donna les pièces à la sœur de l'obscurité.
« J'ai ajouté les sous d'argent que vous m'avez versés hier, » dit-il. « C'est tout ce que j'ai, croyez-moi. »«
Merci beaucoup, » dit Nietzsche.
« Partager ce qu'on possède est le fondement même de la générosité. Le Créateur vous en sera reconnaissant. » Sans un mot de plus, elle se détourna et sortit de l'écurie.
« C'était ma décision, » marmonna l'homme. « Le Créateur n'a rien à voir là-dedans. »
Dehors, Nietzsche distribuait déjà l'argent qu'elle venait de toucher. Entourée d'une foule avide, elle s'éloigna et disparut bientôt de la vue du sourcier. Après avoir tapoté la tête de garçon en guise d'adieu, Richard se tourna vers le propriétaire de l'écurie qui haussa les épaules et soupira.
« J'espère au moins qu'elle vous rend heureux. »
Un instant, Richard songea à dire la vérité. Mais à quoi cela aurait-il servi? Nietzsche tenait à ce qu'on pense qu'ils étaient maître et maîtresse Cypher, et la vie de Callan serait menacée s'il allait contre sa volonté.
« Elle est généreuse. » « C'est pour ça que je l'ai épousée. Voir les gens souffrir lui brise le cœur. »
Entendant un hurlement de femme puis des cris furieux, Richard courut vers la porte, la franchit, regarda autour de lui mais ne vit rien. Se repérant à l'oreille, il fit le tour de l'écurie et découvrit un spectacle étonnant. Une demi-douzaine d'hommes maintenaient Nietzsche plaqué au sol. Tandis qu'elle se débattait, d'autres tentaient de lui faire les poches. Formant un demi-cercle autour de la scène, des femmes, des enfants et des hommes regardaient cette ignominie sans broncher. On eût dit des vautours attendant le moment de se repaître d'une charogne. Richard se fraya un chemin à coups de coude au milieu des spectateurs, saisit le premier agresseur par le col, le propulsa dans les airs et ne s'étonna pas d'entendre un bruit sourd quand il alla s'écraser contre le mur de l'écurie. Flanquant un coup de pied dans les côtes d'un autre salopard, le sourcier l'envoya s'étaler dans la poussière. Quand il eut évité le coup de poing d'un nouveau type, puis saisit son poignet au vol pour le briser net, les autres détrousseurs jugèrent le moment venu d'abandonner le terrain.
« Richard, non !»
cria Nietzsche quand il fit mine de les poursuivre. Fou de colère, le sourcier leva un bras pour frapper l'importune qui s'accrochait à sa taille. Reconnaissant la sœur de l'obscurité, il s'immobilisa, laissa retomber son bras et se contenta de jeter sur la foule un regard assassin.
« Madame, messire !»
gémit une des femmes.
« Ayez pitié de nous, pauvres pécheurs. Nous ne sommes que les enfants perdus du Créateur. Par pitié, ne nous faites pas de mal. »«
Une bande de voleurs, voilà ce que vous êtes !»
cria Richard.
« Des monstres qui s'attaquent à leur bienfaitrice !»
Il voulut charger la foule, mais Nietzsche s'accrocha de nouveau à lui.
« Non, Richard, non !»
Estimant que le coin devenait dangereux, les villageois s'égaillèrent comme une volée de moineaux. Dès qu'il se fut un peu calmé, Richard examina Nietzsche et constata qu'elle avait une lèvre éclatée.
« Qu'as-tu donc dans la tête ? »
lança-t-il.
« Pourquoi distribues-tu de l'argent à de la vermine ? Ces gens t'auraient tué pour prendre ce que tu étais prête à leur offrir. »«
Assez, Richard. Je refuse de t'entendre insulter ainsi les enfants du Créateur. Qui es-tu pour les juger ? Quand on a le ventre plein, de quel droit peut-on décider de ce qui est bien ou mal ? Tu ne sais rien de ce que subissent ces malheureux, et pourtant tu oses les condamner ?»
Richard prit une grande inspiration, histoire de se calmer. Ce que racontait Nietzsche ne l'intéressait pas. D'ailleurs, en intervenant, ce n'était pas elle qu'il avait voulu protéger, et ça, il ne devait jamais l'oublier. Sortant un carré de tissu de son sac, il l'humidifia avec un peu d'eau de son outre, puis essuya délicatement le menton et les joues de sa geôlière. Elle tressaillit un peu, mais ne protesta pas et le laissa examiner sa blessure.
« J'ai cru que ta lèvre avait éclaté, » dit-il. « Mais c'est une simple coupure au coin de ta bouche. Reste tranquille, je vais finir de te nettoyer. »
Nietzsche se laissa faire docilement.
« Merci, »
dit-elle quand Richard eut terminé.
« Tu sais, j'ai bien cru qu'ils allaient me couper la gorge. »«
Pourquoi n'as-tu pas invoqué ton Han pour te défendre ?»«
Aurais-tu oublié ?»« Si j'utilise mon pouvoir, la connexion qui maintient Kalan en vie ne sera plus assez puissante. »
J'avais oublié, en effet. Si c'est comme ça, merci de t'être retenu.
En silence et chargés comme des mulets, les deux voyageurs sortirent de contrefort. Malgré le froid, ils furent très vite en sueur, un des rares avantages de cette absurde mésaventure. N'y tenant plus, Richard finit par poser la question qui lui brûlait les lèvres.
« Tu aurais la bonté de m'expliquer ce qui s'est passé ?»«
Ces gens sont des déshérités. »
C'est pour ça que tu leur as donné tout notre argent?
Serais-tu égoïste au point de ne rien vouloir partager? Te fiches-tu que des malheureux meurent de faim, de froid ou de maladie? L'argent représente pour toi davantage que la vie d'un homme?
Pour ne pas exploser, le sourcil se mordit l'intérieur d'une joue.
Et les chevaux? Tu les as quasiment offerts à ce type.
Ils n'avaient pas plus d'argent, et ces pauvres gens m'appelaient au secours. Dans ces circonstances, nous avons agi comme il le fallait. Avec une grande noblesse et une sincère joie, nous nous sommes dépouillés pour aider les déshérités.
Peut-être, mais cet argent va nous manquer.
Richard, tu as encore beaucoup à apprendre.
C'est vrai, mais je doute que ce soit ça.
Tu es un privilégié et tu refuses de l'admettre. Pense à toutes les chances que tu as eues et qui ont été refusées à ces malheureux. Je veux que tu découvres comment vivent les gens ordinaires, ceux qui doivent lutter chaque jour pour survivre. Quand tu sauras ce que c'est, tu comprendras pourquoi l'ordre impérial est le seul espoir de l'humanité. Là où je t'emmène, nous serons démunis de tout, comme les miséreux condamnés à souffrir dans un monde injuste. On ne nous proposera même pas de travail, et tu verras enfin qu'il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir, contrairement à ce que tu penses. Peu à peu, tu découvriras que la compassion de l'ordre aide les démunis à préserver leur dignité. Le droit inaliénable de chaque être humain. Mais ça, tu ne l'as pas encore appris.
Richard sonda le terrain devant eux. Un grand désert et qu'ils devraient traverser à pied. Une sœur de l'obscurité dans l'incapacité d'utiliser son pouvoir et un sorcier qui n'en avait plus le droit. Une façon d'être ordinaire qui ne manquait pas d'originalité.
« Je pensais que c'était toi qui voulais apprendre des choses, » dit-il.
« Je suis également ton professeur. Souvent, le maître enrichit ses connaissances autant que ses élèves.